Bien, voyons à présent la première partie de cette présentation sur le développement et le déploiement d'applications Java EE7 sur Microsoft Azure, consacrée à la présentation précisément de Java EE7. Java EE signifie Java Entreprise Edition. Il existe en fait deux éditions principales de la plateforme Java. L'édition dite standard, Java SE, celle que l'on installe sur nos postes personnels pour faire fonctionner les applications Java standard, et l'édition dite entreprise, qui est construite sur l'édition standard, donc qui s'appuie dessus, et qui rajoute un jeu d'API supplémentaire qui permettent aux applications d'entreprise de disposer de tous les outils dont elles ont besoin. En fait, dans Java SE, on trouve le langage, les principales API dont le langage a besoin pour fonctionner, telles que les API de calcul, d'accès au système de fichiers, d'accès au réseau, etc. Et dans la partie Java EE, on va trouver des API de haut niveau, de mapping objet relationnel, de gestion du protocole HTTP et des sites web dynamiques, etc. En toute rigueur, il existe également une troisième édition de Java, qui est l'édition Java ME. Nous ne parlerons pas de cette édition, qui est en fait un sous-ensemble de Java SE avec quelques API complémentaires et qui vise à faire fonctionner des applications sur les petits devices tels que les Raspberry Pi ou les objets connectés. Au niveau du calendrier, à l'heure de cet enregistrement, nous en sommes à la version 8 de Java SE. Cette version 8 a été publiée en mars 2014, et à la version 7 de Java EE, elle-même publiée en juin 2013. Les travaux ont déjà débuté sur la version 9 de Java SE, de même que sur la version 8 de Java EE. Voyons à présent l'architecture générale d'une application Java EE, plus exactement les différents modules fonctionnels qui constituent Java EE7. Donc, on a un certain nombre de modules répartis en couches, des modules utilitaires de bas niveau tels que JCA, JPA, JTA et JMS, qui permettent de créer des connecteurs, de s'adresser à la base de données, de gérer les transactions ou de gérer la messagerie, respectivement. Et puis, plus on monte vers les couches hautes, plus on se rapproche de ce que l'on appelle la couche de présentation, avec l'API Servlet qui gère le protocole HTTP et les API JSP, JSF, JAX-RS pour les services REST et EL qui est l'expression language utilisée dans les JSP essentiellement. Et puis à côté de ces éléments, nous avons des API transverses. La première de cette API est l'API Bean Validation, qui permet de façon déclarative de valider les différents éléments de notre modèle objet, et des API utilitaires telles que Concurrency Utility, qui permet de gérer le multithreading au niveau des EJB, une API Batch Application pour les traitements en batch transactionnels ou non, une API qui permet de gérer le XML et le JSON essentiellement pour les services web et les services REST, et une API qui permet de gérer le standard WebSocket pour la communication avec les navigateurs. Tous ces modules ne sont pas dans le contexte de cette présentation. Nous allons nous concentrer essentiellement sur JPA, qui est la Java Persistence API qui gère le mapping objet relationnel, donc entre notre application et son modèle objet et la base de données. L'API EJB, qui spécifie la couche de service et en particulier de service transactionnel. Et puis pour le front-end, JSF, Java Server Faces, qui est l'API qui permet de créer des pages web dynamiques sur des modèles de composants. Nous décrirons également un module de service REST au travers de l'API JAX-RS REST Service. Nous parlerons également de façon plus anecdotique deux modules complémentaires tels que JTA qui gère les transactions, CDI Context and Dependency Injection qui gère l'injection de dépendances dans les objets managés par le container Java EE, l'API Servlet, bien sûr, sur laquelle s'appuie JSF, de même que JSP, puisque les templates JSF s'appuient également sur l'API JSP. Et puis, nous ne parlerons pas directement, mais nous utiliserons l'expression de language qui est également utilisée dans JSF. Disons deux mots à présent sur la notion de spécification au sein de la plateforme Java EE et sur la notion d'implémentation de référence. Java SE et Java EE sont en fait un jeu de spécification. Java SE et Java EE, ce sont avant tout des documents papier, des documents de spécification. Comment ces spécifications sont-elles rédigées ? Le travail est divisé en un certain nombre de groupes d'experts. Chaque groupe d'experts peut faire environ une demi-douzaine de personnes. Ces groupes d'experts sont regroupés dans ce que l'on appelle des JSR, des Java Specification Requests, et il y en a environ une centaine. Ces JSR sont regroupés dans un comité que l'on appelle le JCP, le Java Community Process, lui-même chapeauté par un groupe d'experts également d'une demi-douzaine de personnes. Et tous ces gens discutent et votent pour des spécifications qui seront ensuite incluses dans Java SE, dans Java EE ou bien encore dans Java ME, puis implémentées. Chaque spécification doit être associée à ce que l'on appelle une implémentation de référence. Et au cas où il y aurait une ambiguïté ou une imprécision dans une spécification donnée, c'est l'implémentation de référence qui fait foi. Donc cette implémentation de référence a un rôle extrêmement important, puisque les gens qui veulent implémenter les spécifications doivent s'appuyer sur ces implémentations la plupart du temps. Dans Java SE, l'implémentation de référence s'appelle OpenJDK. Il s'agit d'une implémentation de la spécification Java SE qui est entièrement libre de droit et open source et dont le processus de développement est ouvert. Tout un chacun peut se connecter sur le repository Mercurial de l'OpenJDK et observer ce qui s'y passe en toute liberté. Pour Java EE, les choses sont un peu plus complexes puisque l'on a besoin à la fois d'une implémentation de référence pour les différentes API, mais également d'un serveur d'application qui fasse fonctionner le tout. Le serveur d'application de référence s'appelle Glassfish, le projet Glassfish. Nous en sommes à la version 4 de Glassfish. Le financement du développement de ce serveur d'application est assuré par Oracle, qui paye donc les développeurs qui vont implémenter ce serveur. Nous en sommes précisément à la version 4.1 de Glassfish qui supporte Java 8 et donc l'environnement de développement que nous avons choisi pour cette présentation est Java 8 et Glassfish 4.1. Il existe des implémentations alternatives à Glassfish que l'on peut utiliser en production qui sont certifiées Java EE 7, donc qui ont passé le test compatibility kit qui est distribué avec les spécifications. À l'heure actuelle, les deux implémentations certifiées sont Glassfish 4 et Wildfly 8, qui est la version en fait open source de JBoss développée par Red Hat. Ça ne fait pas beaucoup d'implémentations. Il y en a d'autres qui sont annoncées pour un futur très proche, probablement début 2015. Qui sont le serveur WebLogic d'Oracle également, JBoss EAP de Red Hat, qui est l'édition supportée commercialement par Red Hat. Wildfly est en fait une version open source de JBoss qui, elle, ne bénéficie pas d'un support commercial, mais qui en revanche est en avance sur les implémentations des spécifications, et la version Liberty Profile de WebSphere, édité par IBM. À l'heure actuelle, remarquons que la version courante de Tomcat, la 8, n'est pas encore certifiée Java EE 7. Présentons maintenant l'application Jouet que nous allons développer et qui va nous permettre de présenter les différents éléments de notre application Java EE. Cette application Jouet va nous permettre de gérer une base de musiciens. Son seul objet, en fait, est de montrer comment on peut implémenter des opérations crudes, donc create, retrieve, update et delete, au travers d'une IHM web, donc d'une interface qui va fonctionner dans un navigateur et qui s'appuie sur un module JPA, donc de mapping objet relationnel en Java. Donc l'objet de cette application est de présenter sur un cas à peu près réel les quatre opérations création, affichage, mise à jour et effacement de ce que l'on va appeler des entités musiciens pour prendre le vocabulaire propre à JPA. Au niveau de l'organisation, nous allons d'abord écrire un module dit JPA. JPA signifie Java Persistence API. C'est le module qui permet de communiquer avec la base de données et notamment de communiquer via ce que l'on appelle du mapping objet relationnel, c'est-à-dire de gérer automatiquement pour nous la génération des requêtes SQL de base, telles que les insert, les update, les delete et les select. Puis nous développerons une couche dite d'EJB. EJB signifie Enterprise Java Bean. Il s'agit d'une technologie assez ancienne qui a une quinzaine d'années à présent. Cette technologie subit une réputation assez ancienne également et très mauvaise, puisque les premières versions des EJB avaient la réputation d'être approximativement inutilisables. Depuis Java EE5, l'API porte toujours le même nom, remplit toujours les mêmes services, mais avec un fonctionnement qui est radicalement différent, et notamment une mise en œuvre et une configuration qui n'a rien à voir avec les versions précédentes. Oublions donc ce que l'on savait sur les EJB et partons avec des idées neuves pour la construction de cette couche d'accès aux données. Le troisième module sera un module JSF, donc une application web, des interfaces web sous forme de pages qui vont nous permettre d'exposer à l'utilisateur des interfaces pour implémenter les opérations en base de données. Et enfin, le quatrième module sera un module REST pour publier nos données en XML ou en JSON. À l'heure actuelle, toute application qui se respecte, digne de ce nom, se doit d'exposer un module REST pour pouvoir interagir avec ces données. Nous allons donc maintenant construire notre environnement de développement Java EE pour déployer nos applications dans Microsoft Azure. Pour cela, nous avons besoin d'un certain nombre d'éléments techniques. Certains sont relatifs à Java EE, d'autres au fait que l'on déploie dans cet environnement de production particulier qu'est Microsoft Azure. Pour la partie purement développement, nous avons besoin de trois éléments. D'une version d'Eclipse ou de toute autre IDE compatible Java EE et qui va nous permettre bien sûr de développer nos projets, d'écrire notre code. D'une base de données de test qui puisse fonctionner sur notre poste local. Ici, on va utiliser MySQL qui reste compatible avec SQL Server qui lui sera utilisé en déploiement. Et d'un serveur d'application compatible Java EE 7. À l'heure de cet enregistrement, malheureusement, nous n'avons pas beaucoup de choix sur ces serveurs d'application puisque seulement deux sont réellement utilisables, Glassfish et Wildfly. Glassfish étant le seul à l'heure actuelle supporté par Microsoft Azure, c'est donc Glassfish que nous allons utiliser. Commençons donc par configurer Eclipse. La version d'Eclipse qui est ici est la version Java EE qui a été installé, c'est-à-dire essentiellement dézippé, sans aucune modification. Et précisément, nous allons avoir besoin d'installer au moins deux plugins supplémentaires pour pouvoir développer nos projets. Ces deux plugins sont installés au travers de l'Eclipse Marketplace, auquel on accède par ce menu.
Il s'agit du plugin d'une part TestNG qui va nous permettre d'écrire des tests unitaires simples. TestNG. Donc nous allons installer ce plugin. Et pour la dernière version de GlassFish, le plugin qui permet à Eclipse de communiquer directement avec GlassFish en mode développement s'installe également au travers du marketplace. Donc il faut également aller chercher le plugin GlassFish. Sans se tromper de version évidemment, puisque nous sommes sur la version Luna d'Eclipse. Une fois ces deux plugins sélectionnés, on clique sur Install maintenant. Une fois ces deux plugins téléchargés, il nous reste deux éléments à configurer au niveau d'Eclipse. Tout d'abord, déclarer quelle machine Java on va utiliser dans notre projet. On va utiliser en fait la dernière version de Java disponible actuellement, qui est la 8.0.25. Et d'autre part, du répertoire d'installation de GlassFish. Donc ça se fait dans les préférences. Environnement runtime pour le serveur, ajouter. Le nœud GlassFish qui se trouve ici n'apparaît que si l'on a effectivement installé le plugin GlassFish au travers du marketplace Eclipse. Je sélectionne ici GlassFish 4, Next. J'indique le répertoire d'installation de GlassFish et le runtime JDK8.0.25 que l'on vient de déclarer. Donc GlassFish est maintenant prêt à être utilisé pour nos projets Java EE.